RCF.
Série d'entretiens avec Jean-Marie Guelette, co-auteur avec Laurent Denisot d'un essai très éclairant sur le thème de la guérison, guérir une quête contemporaine parue au Cerf. Jean-Marie Guelette, vous montrez comment le monde médical appréhende la maladie. Alors c'est très intéressant parce qu'on voit que c'est une approche objective. Un corps qu'on analyse, qu'on soumet à des examens, il y a une certaine distance entre le patient et le médecin. Et c'est ça qui fait souffrir généralement d'ailleurs pas mal de patients d'être un objet d'étude.
Je crois qu'il faut quand même par amabilité pour nos amis les médecins dire que ce qui fait d'abord souffrir les patients, c'est la maladie quand même.
C'est la maladie, mais c'est vrai qu'on sent souvent une difficulté quand même à vivre cette...
Oui, c'est sûr. Ce qui les frustre, je pense, c'est vraiment cette situation où le médecin cherche la maladie dans le corps du patient avec des modalités qui de plus en plus se situent en dehors du corps du patient. Enfin, les lieux majeurs du diagnostic médical aujourd'hui ne sont plus du tout le corps du patient ou l'examen clinique physique, si on peut dire. C'est le laboratoire et c'est l'imagerie médicale qui peut s'interpréter à des centaines de kilomètres du patient. Donc on pourrait dire l'essentiel de la démarche diagnostique peut se faire par une équipe de médecins qui n'ont jamais rencontré le patient. Et le diagnostic sera juste. Et il faut jamais négliger le fait que ce qui nous frustre, ce qui nous semble parfois trop technique et trop raide dans la médecine scientifique, hospitalière d'aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi son progrès. Enfin, c'est ce qui lui a permis aussi de faire de tels progrès. Donc la question, moi je suis assez convaincu que les médecins qui sont dans des spécialités extrêmement pointues aujourd'hui, nécessitant des compétences scientifiques, voire techniques de très haut niveau, je suis pas sûr qu'il faille espérer que, en ayant un petit peu plus de temps, ils soient plus sympas, tout ça. Non, enfin, on peut pas tout faire à la fois. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'ils acceptent qu'il y ait à leur côté d'autres intervenants qui puissent aborder le patient d'une autre façon et être plus qu'eux à l'écoute de l'expérience du patient.
C'est pour ça que dans le livre, vous dites qu'il y a les métiers pour ça, les psychologues, les gens qui accompagnent, les infirmiers, les infirmières, et ça n'est pas forcément aux médecins, comme vous le disiez, mais il y a quand même une nécessité d'avoir un lieu d'écoute pour celui qui traverse l'épreuve.
Oui, alors je crois que vous parlez vraiment comme un médecin, là, c'est parce que vous...
En tout cas, les médecins... donne cette fonction à tous ceux que j'ai cités là.
Et surtout les psychologues. Enfin, je pointais ça parce qu'il me semble que bien souvent, en particulier dans une équipe hospitalière, en particulier dans des services extrêmement techniques, on va essayer d'avoir à sa disposition une ou des psychologues avec un peu l'idée que si le patient veut parler, il y a quelqu'un pour. Alors c'est mieux que rien, hein, mais là où je tique un peu, c'est pour dire attention, on est là vraiment dans une approche terriblement dualiste, quoi. Les médecins s'occupent du corps, la psychologue s'occupe de la parole, et puis comme ça, tout le monde sera content et on aura une approche globale. Alors qu'en fait, le patient, il se vit pas comme étant soit corps, soit parole. Il est un être humain qui est un être qui parle.
Un être parlant.
Un être à la fois vivant dans la condition corporelle et parlant. C'est pour ça que je crois que cette frustration de beaucoup de patients devant une médecine qu'ils vivent comme très très scientifique, très anonyme, est vraiment l'une des sources majeures du recours à des médecines complémentaires. En fait, c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où jamais la médecine n'a été aussi efficace et jamais les Français n'ont consulté autant de médecines complémentaires. Donc on ne peut pas dire les médecines complémentaires se nourrissent des échecs de la médecine. C'est complètement faux. C'est au contraire. C'est pour ça que j'emploie à dessein le terme de médecine complémentaire. C'est qu'aujourd'hui, on a des chiffres quand même assez importants. De l'ordre de 70% des patients atteints de cancer consultent quelqu'un d'autre en dehors du système médical, en même temps. Donc non pas parce que leur chimiothérapie a échoué, mais parce qu'ils ont besoin d'un autre lieu, et sans, moi j'aurais tendance à dire sans agressivité à l'égard de la médecine, sans militantisme particulier, simplement parce que ils ont besoin qu'on s'occupe de leur corps, qu'on s'occupe de leur corps dans leur histoire, qu'on écoute leur histoire, qu'on fasse des tas de choses que la médecine ne fait pas ou ne fait plus, et je veux dire, faut pas lui en vouloir, mais faut se dire, bah voilà, on a besoin de différents interlocuteurs dans une expérience qui est si complexe comme celle de la maladie.
Jean-Marie Guelette, vous parliez des médecines complémentaires. C'est un autre monde par rapport à la médecine dite classique, traditionnelle, dont vous avez parlé, très technique aujourd'hui, qui utilise des moyens scientifiques pour vérifier, pour regarder le corps, souvent sans le toucher même. Qu'est-ce qui caractérise ces médecines complémentaires? Parce que c'est assez flou finalement.
Il me semble qu'un aspect qui leur est généralement commun, c'est l'attention portée au sujet, non seulement au sujet malade, mais également au sujet thérapeute. C'est-à-dire que l'acte thérapeutique dans ces pratiques-là est fondamentalement un acte intersubjectif entre deux subjectivité, donc ne cherchant pas ou n'ayant pas les moyens de prouver, comme diraient les médecins, de prouver leur efficacité de manière objective. Il s'agit d'une relation un peu comme, par exemple, dans la psychanalyse, quoi. C'est-à-dire il y a un sujet thérapeute qui est là avec ce qu'il est, et puis un sujet patient qui est aussi unique, et il va se passer quelque chose d'unique dans cette relation.
Oui, ce qui fait qu'on peut dire, j'ai vraiment trouvé quelqu'un de bien. Je sais pas pour toi ce que ça sera, mais pour moi, il est bien.
C'est très frappant de voir combien de personnes, aujourd'hui vous avez 49% des Français ont consulté un ostéopathe dans les deux années passées, quoi. Donc on peut toujours dire que c'est marginal, mais ça commence à l'être un peu moins quand la moitié de la population... Bon. Eh bien, vous avez remarqué que très souvent des gens vont parler de mon ostéopathe, quoi.
Ils personnalisent.
Ils personnalisent, et puis ils ont quelquefois été voir plusieurs, et puis ils disent, ah non, c'est vraiment avec celui-là que je me sens bien. Alors que je vous dis, la manière de penser, la démarche intellectuelle de la médecine, dans ces lieux les plus scientifiques, ce qui veut dire aussi les lieux où elle fait le plus de progrès, et rigoureusement l'inverse. Quelqu'un qui est atteint d'un cancer va être intégré dans un protocole de recherche, dans un groupe qu'on appelle une cohorte, et dans lequel il va devenir, les échantillons de sa tumeur vont être anonymisés, vont devenir un numéro, etc. Et ça peut sembler terrifiant, mais non, c'est comme ça que la médecine a fait les progrès qu'elle a fait.
En tout cas, dans la médecine complémentaire, on va dire aux patients, vous avez en vous les potentialités, peut-être, que vous pouvez guérir. Il y a une parole sur la guérison, quand même.
Alors, en plus, il y a un vieil héritage hippocratique, dans les médecines complémentaires, la plupart d'entre elles, qui est l'idée que la nature a la capacité de guérir. Et donc, le thérapeute va être là plus pour stimuler les capacités du sujet que pour attaquer la maladie. C'est pas inintéressant, d'ailleurs, de repérer qu'en cancérologie, les progrès sont en train de venir un peu sur ces terrains-là, parce que l'immunothérapie, c'est bien ça, c'est d'aller stimuler les défenses immunitaires du patient contre son cancer, plutôt que de l'attaquer avec des produits extérieurs.
Et la question du croire est quand même sollicitée dans cette approche-là.
Dans toutes les approches thérapeutiques. Alors je pense que c'est vraiment une illusion que de croire que du côté de la science et de la médecine, il y a du savoir, et que les autres, il y a du croire, et que si on guérit chez les médecines complémentaires, c'est parce qu'on y croit, alors que de l'autre côté, c'est parce qu'il y a la science. Je garantis que si on vous donne les molécules pharmaceutiques qu'il faut, mais que vous êtes certaine que ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'il faut que le patient y croit, il faut que le médecin y croit pour qu'il ose prescrire, ou il faut que le chirurgien y croit pour qu'il ose ouvrir le ventre d'un de ses congénères. Enfin, c'est quand même un geste tout sauf anodin. Donc, il faut qu'il croit que c'est possible, il faut qu'il croit qu'il est capable, il faut qu'il croit que ça sert à quelque chose. Donc, il y a du croire dans toute activité thérapeutique humaine, et il y a du savoir chez tout le monde, c'est-à-dire non seulement chez les médecins comme chez les thérapeutes complémentaires, et il ne faut pas oublier non plus, il y a aussi un savoir chez les patients, qu'il est bon d'écouter, parce qu'en particulier dans des maladies chroniques, bien souvent le patient se connaît très bien et sait très bien comment sa pathologie évolue, qu'est-ce qui lui fait du bien, qu'est-ce qui lui fait pas du bien. Donc je crois que tout l'enjeu des relations thérapeutiques diverses, c'est ça, c'est que les uns et les autres se fassent confiance, c'est bien de ça qu'il s'agit quand on parle de croire, et que les uns et les autres soient à l'écoute de, pour dire, de la part de savoir qui se trouve chez l'autre, ce qui est toujours très complexe parce que nous venons de l'évoquer, médecins, thérapeutes complémentaires et patients ont des savoirs différents et c'est pas simplement des informations, c'est des manières de penser complètement différentes. Et donc le dialogue est très complexe, évidemment.
Avec ce que vous appelez l'individualisation du croire, enfin c'est plutôt Daniel Hervieux-Léger qui reprend cette expression, l'idée que les gens vont choisir dans les thérapies, mais aussi dans les démarches spirituelles, ce qui leur convient. Il y a une sorte de, voilà, d'idée qu'on peut aller glaner comme ça passer d'une expérience à une autre, une expérience de soins à une autre.
Ah ben ça a été pour nous dans notre équipe de recherche une grande surprise lorsque nous on commençait à travailler sur la guérison. On a fait un truc bête mais relativement indispensable aujourd'hui. On a tapé guérir sur des moteurs de recherche sur Internet et on a été complètement stupéfiés de voir que il fallait passer des pages et des pages avant de trouver des sites médicaux qui parlent de guérison. C'est-à-dire que ce qui arrive en tête de propositions sur Internet, ce sont soit des sites de thérapie complémentaire, soit des sites de thérapie spirituelle, de guérison par la prière, etc. Donc là aussi, je pense que c'est pas pour dire l'avenir est là, c'est pour dire la proposition est là. Dans cette recherche, c'est-à-dire si on se met dans l'état d'esprit de quelqu'un qui vient d'apprendre un diagnostic un peu impressionnant, il rentre chez lui, il se met sur son clavier, évidemment, il va aller chercher comme tout le monde. Eh bien, faut savoir que s'il tape cancer et guérison, il ne va pas tomber en premier lieu sur des pages scientifiques. Et c'est là qu'on va voir en effet cette espèce de choix très individuel dans une espèce de gigantesque supermarché de la thérapie.
Merci Jean-Marie Guelette, à demain.